20h, 21h, Time Food spécial Cannes 2024 avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Eh oui, c'est justement l'heure de football, eh oui, sur l'antenne de Beurre FM en ce jeudi 11 janvier, 20h pétante, c'est votre quotidienne qui n'est autre que Tam Foot, spéciale Coupe d'Afrique des Nations, 13 janvier au 11 février. Rien que pour vous, chers auditeurs et auditrices, toutes les infos sont sur l'antenne de Beurre FM, notamment sur la matinale avec justement Didier Kim, 7h, 10h et toute son équipe accompagnée de Fujin, sans oublier après les autres émissions, notamment avec justement en début de soirée, Adil Farkas et toute son équipe des informés. Ben là, ça a parlé, justement, on parlait de quoi? De composition du gouvernement, hein, avec toutes ces nouvelles têtes. Ça aurait fait plaisir, ça, à Boula et encore à Juba. Mais nous, on va rester sur la planète football avec justement Griezmann, Golazzo pour l'histoire. On reviendra sur ce Colchoneros. Et oui, l'international français qui fait des miracles pour justement les Colchoneros, l'Atlético de Madrid, mais pas que aussi, même en équipe de France, parce qu'on n'oublie pas, cet été, c'est l'Euro 2024 du côté de l'Allemagne. La sélection gambienne. Un couac avant le début de cette fameuse CAN en Côte d'Ivoire. On en reparlera, et pas que de la Gambie. Et on reviendra, c'est oblige. Mais ce soir, ça parle de NBA en France. Et oui, avec Wemby, bientôt de retour du côté de Paris. L'Accor Hotel Arena avec Vivien, avec Mathieu pour m'accompagner. Et sans oublier Anan. Allez, sans plus tarder, on va leur donner la parole.
Time Sport. Il est pour parler.
Le débat du jour, on le rappelle. Chauffez-vous, chers auditrices et auditeurs. Une CAN qui s'annonce au top pour tous. Voilà, c'est la question que l'on s'est posée durant cette journée. Le 01 53 48 3000, c'est pour réagir avec toute l'équipe. Allez, ce soir, on accueille Vivien et sans oublier Mathieu. Bonsoir, Mathieu.
Bonsoir, Bilal.
Comment
ça va ?
Bonsoir
à toutes et à tous. Bah, écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Je suis très content d'être là.
Ah ben, nous aussi.
Une deuxième journée de suite, donc ça fait
c'est
plaisir.
Ça.
On a un super bon programme et on va encore une fois bien
s'amuser ce soir.
Beaucoup de choses à dire.
On va voir. On a juste Adnan aussi, juste en face de Mathieu. Bonsoir Adnan, comment ça va?
Bonsoir Villel, bonsoir à tout le monde.
Tranquillement Adnan?
Oui, très content d'être là. On va parler justement de foot, on a parlé de politique juste avant. On va parler de basket avec l'enfant du pays. Et très content d'être là.
Ah ben nous aussi, voilà, avec Solal à la réalisation et aussi où on peut le retrouver, Solal et toute l'équipe de Tam Sport, en appelant le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Bonsoir Solal, comment ça va?
Buonasera a tutti, écoute, tout va bien, j'espère que vous allez bien l'équipe, très content d'être toujours là avec des gens d'une telle qualité. Le numéro, merci Bilal, ça m'évite de le répéter, mais je vais quand même le faire.
Allez, vas-y, répète-le, tu peux, mais bien sûr.
01 53 48 3000, tout simplement, si vous voulez réagir à l'actualité sportive. Et écoute Bilal, de quoi on va parler là maintenant?
Oui, ah ben on va parler de quoi? De l'Atlético de Madrid,
magnifique.
C'est ça. Et d'un certain Antoine Griezmann qui fait des merveilles. Eh oui, c'est bien ça, c'est Antoine Griezmann, meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid. La folle anomalie, peut-être selon certaines et certains, mais en tout cas il est bien là, l'international français. Et bravo à lui, Anan.
Bah pour moi ça va être l'une des légendes du club. On rappelle qu'il a marqué 174 buts. Il a dépassé un certain Luis Aragonés, qui était lui aussi la légende du club, l'ancien sélectionneur justement de l'équipe d'Espagne, notamment lors du Mondial 2006. Il restera une légende du club. Je pense que ça va être le joueur de l'ère Simeone. Je pense
le
que ça.
Le joueur, oui.
Après, la seule petite tache noire qu'il a, c'est son départ justement au Barça. Mais comme on dit, voilà, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais si on va pas voir ce qu'il y a ailleurs, voilà, il s'est rendu compte justement de l'attachement qu'il avait pour ce club, l'Atlético. Et pour moi, voilà, ça reste l'un des plus grands joueurs français, le plus grand joueur en tout cas de l'Atlético de Madrid. Le futur nous dira justement si ça a été une légende vraiment ultime du club. Encore une fois. Voilà, c'est le futur qui nous dit les choses, dans le sens où on a plein d'exemples justement des joueurs qui étaient très forts, où on croyait que c'était des légendes et finalement leur image a été écornée juste après. Je pense notamment à Benzema, par exemple, qui était le parfait exemple pour moi, qui était une légende ultime du club. Et là, j'ai l'impression que ça redescend, à l'inverse d'un Thierry Henry qui lui était parti aussi pour le Barcelone. Il a eu ce petit passage justement à Arsenal durant justement sa saison avec les New York. Et qui a fait que voilà, aujourd'hui c'est une légende du club, on a sa statue. Mais pour moi, voilà, Griezmann reste en tout cas un joueur légendaire en tout cas de l'Atlético.
Ouais, légendaire, c'est le mot.
Oui, oui, légendaire. Alors, légendaire, je peux ouais, être d'accord avec ce que vient de dire Adnan, parce que forcément, déjà quand t'es le meilleur buteur de l'histoire de ton club, c'est que forcément tu rentres dans la légende. Maintenant, voilà, c'est vrai que bon, bah, son passage au Barça a été n'a pas été concluant, mais je trouve qu'il a eu, voilà, quand même la lucidité. Après, on en parlait la dernière fois que il y a aussi eu de l'aide avec sa femme, sa sœur, qui ont bien discuté avec lui, qui ont bien géré ça, et il a eu la lucidité de retourner au Bercail.
Exactement.
Et avec, tu disais, c'est le joueur de l'ère Simeone. Bah, c'est un peu comme si c'était le petit garçon de Simeone, oui, comme si c'était son fils, quoi.
Exactement.
Parce que c'est lui qui l'a fait devenir le joueur qu'il est aujourd'hui. Et c'est un peu à cause ou grâce à Simeone que notre cher Didier Deschamps l'a repositionné aussi bas en équipe de France. Parce qu'il a vu tout ce qu'il pouvait faire, toutes les qualités qu'il avait, surtout en termes de récupération, comment il avait progressé.
Ouais.
Mais c'est vrai que Antoine Griezmann sait tout faire.
Ouais, c'est tout faire pour toi. C'est chaque clip de chaque match qui nous dit Griezmann prouve, excusez-moi, qu'on peut être un attaquant de légende plus avec son intelligence de jeu qu'avec son habileté devant le but. Voilà.
Moi, j'aimerais juste souligner quelque chose, et ça, faut pas l'oublier. C'est que Griezmann, n'oublions pas, il est passé sous les radars justement des clubs français, et qu'il n'avait pas les caractéristiques, exactement, les caractéristiques demandées par les centres de formation.
C'est vrai.
Et aujourd'hui, malheureusement, le logiciel est toujours là.
Ouais.
On a encore justement toutes les caractéristiques qu'on demande, c'est-à-dire le physique, l'athlétisme, et malheureusement, moi, ce que j'aime beaucoup avec Griezmann, c'est qu'il joue simple. Très très simple, même si les gens pensent que c'est pas une qualité technique, voilà, c'est très très son jeu est ultra technique.
Voilà, le Duc qui nous dit Adnan Grizou est le meilleur buteur d'une équipe qui met le bus depuis 10 ans. Eh oui, il faut mettre du respect sur son nom quand même, hein.
Tout à fait. Non, mais encore une fois, moi je dénigre pas, bien au contraire.
Il faut pas.
Pour moi, c'est vraiment un joueur majeur qui a fait justement les beaux jours de l'Atlético et surtout dans un championnat ultra dominé par le Barça et le Real, et il a réussi à se faire un nom dans le championnat espagnol. Donc pour moi, chapeau.
Et puis voilà, moi je suis pas trop d'accord avec ce que disait Chekib.
Et pourquoi
quand il dit, bah, quand
allez,
il
Chekib
dit que...
qui est à l'écoute ce soir, de chaque match. Vas-y.
Quand Chekib dit qu'il a un petit peu de mal devant le but, je le trouve un peu sévère, parce que bon, il est quand même, ok, c'est pas un renard des surfaces comme ont pu l'être des Suarez, des Cavani, mais je trouve qu'il est quand même habile devant le but. Enfin voilà, il est
déjà meilleur qu'un Kolo Muani.
Il est, voilà, tu me lances pas sur ce sujet-là, Adnan, parce que tu sais très bien.
Non,
mais voilà, je trouve Chekib un peu sévère,
ouais.
mais pour revenir à Griezmann, c'est ce qui est impressionnant, c'est que voilà, j'insiste sur cette phase où il était vraiment au fond du trou, et même la première année où il est revenu à l'Atlético, il n'était pas exceptionnel, et petit à petit il a réussi à retrouver de la confiance, et là cette saison il est en train de faire une saison extraordinaire, et déjà la deuxième partie de la saison dernière il était très 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 bon.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il fait partie des top 5
Moi, je répète
à l'heure actuelle. Je parle à l'instant T.
Oui, moi, je te répète depuis le début du championnat que c'est le meilleur joueur du championnat.
Pour moi, je suis d'accord.
Donc, avec un Bellingham, forcément, qui explose
mais
tout.
Mais qui a plus d'exposition,
mais
peut-être
voilà,
aussi.
Exactement.
Ouais.
Maintenant, Griezmann, c'est vrai qu'il ne fait pas beaucoup de bruit.
Ouais.
Il est toujours là. Tranquille dans son coin.
Ouais.
Et ce but, il est tellement symbolique hier parce que ça reste.
5-3, ils ont perdu, mais bon,
oui,
mais ça va.
Tu vois, ce but est symbolique dans le sens où ça reste contre l'ennemi juré du Real Madrid.
C'est vrai.
Alors, c'est dommage que ça soit. On en a parlé avec hier, mais.
Ouais, mais, on va en parler aujourd'hui si tu veux. Hein.
Mais que ce soit
parce
pas.
Que moi, j'ai une bonne question, c'est comme nos confrères d'RMC Sport.
Que ce soit pas en Espagne, ça a peut-être un petit peu moins de saveur que ce fait que ce soit en Arabie Saoudite, etc. Mais.
Ouais, il fait chaud, c'est bien.
Je pense que pour lui, je pense qu'il fait abstraction de cet endroit et qu'il est très content. Et on est tous contents pour lui.
C'est quoi ta question, Bilal?
Ma question, que justement, je vais la poser parce qu'on a été rejoint par HD, hein, HD qui est un consultant journaliste, hein, qui était aux avant-postes de cette belle émission qui est Time Sport, mais aussi avec Mohand qu'on peut retrouver, Mohand, tous les dimanches, 18h-20h. Vivien, je m'adresse à toi, c'est justement, on va copier un peu sur nos confrères Griezmann au même niveau de Platini ou encore Zidane.
Aujourd'hui, malgré sa belle carrière, moi je trouve pas. Pourquoi? Parce que ce que Platini et Zidane ont eu, alors en plus des ballons d'or, mais je trouve qu'en termes d'impact, en club, pour moi, je trouve quand même qu'ils étaient un cran au-dessus. Et on parle de Platini, Zidane, ouais. Même Copa, les auditeurs oublient peut-être. Copa, c'était un ballon d'or, c'était le premier Français à avoir réussi à Madrid. Ouais. Même un défenseur comme Lilian Thuram, pour moi, un quart de Thuram, est encore un cran au-dessus de Griezmann.
Après, il y a autre chose à ça. Ce sont des époques différentes.
Ouais.
J'ai du mal à comparer. Zidane, quelque chose, tu vois, quand on parle d'un joueur et qu'on dit.
On a
tendance, des fois, on dit Mbappé, Pelé, etc. Ça n'a rien à voir. C'est une toute autre époque, c'est un autre style de jeu. C'est pas les mêmes coups, c'est pas les mêmes ballons. En fait, tout est différent. Donc, c'est un peu plus rapproché, forcément, entre Griezmann, Platini et Zidane. Et quoique Platini encore, ça fait quelques années, mais j'ai du mal à comparer comme ça certains joueurs. Encore, tu vois, tu me dis Griezmann par rapport à l'impact avec Ronaldo ou un Messi à leur top, etc. C'est à peu près c'est la même époque. Mais Platini, Zidane, j'ai du mal à comparer à travers les époques.
Alors Adnan,
après, avant ça va être une question, je pense que c'est une question de génération, une question justement d'impression que laisse. Alors en tout cas, comme souvenir aux supporters. Moi, malheureusement, j'ai un débat interne. Ou moi aussi j'ai ce problème là entre Messi et Maradona par exemple.
Messi et Maradona,
pour moi,
exactement.
Et c'est peut-être aussi ce qu'ils ont laissé comme héritage au peuple et comme souvenir.
Et puis tu vois, Bilal, excuse-moi Adnan, tu poses la question à quelqu'un de l'époque de Platini, il va te dire Platini. Tu poses la question à quelqu'un de l'époque de Zidane, il va te dire Zidane. Et tu poses la question à un jeune aujourd'hui, il va te dire Griezmann.
Alors pourtant un ancien, c'était Tony Vérel qui disait il a toute sa place avec Platini et encore Zidane. HD, on l'écoute concernant. Bonsoir HD.
Bonsoir à tous. Moi sur Griezmann, je vois pas l'intérêt de la comparaison avec
avec
Zidane et
avec
Platini.
Zidane et Platini.
Déjà parce que c'est un joueur différent. C'est-à-dire que dans les caractéristiques de Griezmann, c'est moi je ferais plus par exemple une comparaison avec quelqu'un comme Benzema qu'avec quelqu'un comme Zidane.
Attention, là faut vraiment remettre un petit peu les choses dans leur contexte.
Alors,
n'oublions pas que Griezmann a été un acteur majeur de l'obtention de la Coupe du Monde en 2018. Ça a été un des joueurs phares de cette équipe-là, voire même le meilleur.
En 2022 aussi, à part la finale.
Exactement, la dernière coupe, mise à part la finale,
Et c'est ce que j'ai déjà dit et que je vais répéter, c'est que Griezmann, si on perd cette finale, c'est parce que Griezmann n'est pas bon.
Exactement.
HD, on revient à toi.
Moi, pour moi, la comparaison avec Benzema, elle est plutôt sur le fait qu'on a une génération d'attaquants en France, même si Benzema, il a une histoire contrariée avec l'équipe de France, qui ne sont pas simplement des attaquants, c'est-à-dire pas simplement des joueurs dont on attend qu'ils marquent des buts, dont on attend qu'ils finissent les actions. Griezmann, c'est un joueur qui, dans sa carrière, a mis des buts importants en Champions League, en équipe avec l'Atlético Madrid, en équipe de France, mais c'est aussi un joueur qui apporte d'autres choses dans la combativité. De la même manière que Benzema, c'est un attaquant, mais c'est un joueur qui est devenu un bâtisseur du jeu du Real Madrid. Donc on a des attaquants français dans cette génération-là qui sont des attaquants hybrides. Et même quand vous regardez quelqu'un comme, par exemple, comme Mbappé, c'est aussi ce qu'il a envie de faire. On lui demande de marquer des buts, mais quand on regarde la mentalité d'Mbappé, c'est un joueur qui a envie de participer au jeu, de construire.
Tu en avais parlé.
Donc voilà. Donc
je souris parce que Anand, ça tu l'avais dit ce qu'il est en train de dire.
Et puis je veux même rajouter.
Il fait pas tout ce que Griezmann fait non plus.
Non, bien sûr. Moi, je parle dans les caractéristiques, ce qu'ils font sur le terrain. Alors que quand vous regardez quelqu'un comme Platini, c'est un chef d'orchestre. Vous regardez quelqu'un comme Zidane, c'est des chefs d'orchestre. On peut pas dire que Griezmann, c'est le chef d'orchestre. Ouais, c'est une cheville ouvrière, mais c'est pas un chef d'orchestre.
Oui, mais il y a aussi l'histoire en dehors des statistiques football, etc. Il y a une histoire aussi, justement, qui s'est construite. N'oublions pas, Griezmann, il a commencé en équipe de France. Il a été de l'épopée de 2014.
Au Brésil.
Et que quand il perd en demi-finale, c'est l'un des seuls Français qui sort en pleurant.
Quart de finale.
Qui sort en pleurant. Et ça, les Français. Il y a une connexion qui. Exactement.
C'est comme Bolli en 91.
C'est ça.
C'est ça. Tout à fait.
Très pertinent, les gars.
Allez,
franchement, bravo.
Pertinent. Ils sont bons. C'est la Ligue des Champions ce soir.
Non. Tout ce que vous dites, c'est très, très juste. Forcément, Griezmann, on peut en parler des heures. C'est un joueur qui a beaucoup, beaucoup de qualités. Alors, moi, ce qui m'intéresse particulièrement avec Griezmann, c'est que, comme vous l'avez dit, on ne peut pas le comparer à d'autres joueurs qui sont des buteurs. Des gens qui ont passé des saisons dans des clubs et qui sont devenus le meilleur buteur tout simplement parce qu'ils étaient le 9. Griezmann, il a redonné, on va dire, goût à cette position de faux 9. Et en fait, même, voilà, c'est une des choses qui m'a inspiré, qui a inspiré, je pense, cette génération de gens qui jouent encore au football, cette position entre l'attaque et le 10, faire la liaison entre justement
Griezmann, selon toi.
Au tout début de sa carrière, Griezmann était beaucoup comme ça, et en fait, c'est ce qui l'a fait démarquer énormément des autres.
Bien.
Donc, moi, je suis très très content de ce record-là, et donc je trouve que c'est un énorme gain de confiance pour les futures compétitions qu'il va rencontrer, notamment avec l'équipe de France. Ça, c'est génial, franchement, d'avoir un joueur comme ça qui est en pleine confiance.
Pas faux. Après, voilà, c'est pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un joueur de collectif. C'est un joueur qui pense pas à lui en premier. Et c'est ça qui est formidable, parce que le mec, il pense pas à lui en premier, il fait les replis défensifs, il a la récupération. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi quand tu dis que c'est
alors
pas
avec
un
HD,
chef d'orchestre.
Il est pas trop d'accord.
Parce que je trouve que justement c'est un chef d'orchestre parfait.
Créé le lien entre l'attaque et le milieu de terrain. Chose qui manquait à cette équipe de France.
Et je trouve par exemple, quand il n'est pas en neuf et qu'il est repositionné un petit peu plus bas, je trouve que de par sa vision du jeu, il apporte quelque chose. Et du coup, avec les attaquants qu'il a devant, que ce soit Morata, Giroud ou même Colomoigny en équipe de France, il apporte ça aussi, sa vision du jeu. Après, voilà, forcément, quand on lui dit vas-y, il a cet instinct de buteur aussi, puisque c'en est un. Ouais. Mais c'est vraiment, il se met à la place du collectif. Et le mec qui devient meilleur buteur de l'histoire de son club,
Antoine Griezmann,
c'est quand même formidable.
C'est promis.
Après, pour ajouter un élément, Bilal,
rapidement,
je pense que ce qui est important, c'est que le paradoxe de Griezmann, c'est que quand on va repenser à l'Atlético Madrid dans 10, 20 ans, cet Atlético Madrid de Diego Simeone, on pensera pas à Griezmann. Si vous avez un joueur qui vous vient en tête,
alors c'est qui? Alors là,
là où je suis d'accord avec toi.
Enfin, dire qu'on pensera pas à Griezmann.
Il y a la décision qui va sortir, et la décision, ce fameux mot ou ce fameux épisode qui va ressortir. Mais je vois pas de joueur plus emblématique de l'ère Simeone.
Ah ben ça c'est vrai. Peut-être on est sur vrai français là.
C'est son fils. Qu'est-ce que tu veux dire?
Moi je pense que ce record, il est important pour Griezmann, pour qu'on se souvienne de lui dans 10-20 ans. Mais moi, pour moi, le joueur qui incarne,
tu penses à qui?
C'est Diego Godin. C'est-à-dire, c'est avec l'Atlético Madrid, c'est la parole à la défense.
Oui, mais Diego Godin est relié à Antoine Griezmann.
Ah non, mais moi quand on parle de joueurs emblématiques, c'est-à-dire les supporters espagnols de l'Atlético se souviendront de cet Atlético-là. Ils penseront d'abord à la défense de l'Atlético, de cette solidité, avant
vous
de penser à celui qui
marquait. Vous restez avec nous, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM. On revient de suite après concernant la Coupe d'Afrique des Nations.
Time Foot spécial Cannes 2024 revient dans un instant. Beurre FM, 20h, 21h, Time Foot spécial Cannes 2024 avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, il est 20h20, toujours là en live jusqu'à 21h avec Solal à la réalisation. Le numéro du standard, on le rappelle, c'est le 01 53 48 3000. Justement, on est avec toute l'équipe de Time Sport, je le rappelle, autour de la table pour m'accompagner. On a le grand retour de HD, sans oublier Adnan. Et oui, Adnan, toujours le grand sourire avec, il est un peu pessimiste, mais il y croit justement, cette canne en Côte d'Ivoire. C'est Mathieu, et sans oublier Vivien. Non, Mathieu, t'inquiète pas, tu es comme moi, on va voir justement.
Bien sûr que j'y crois. Moi, j'ai un petit bémol.
Ah ben justement, c'est le grand dossier de cette émission.
Time Sport. La parole des sociaux.
Une CAN qui s'annonce au top. On l'espère pour tous, en tout cas. Eh oui, c'est le débat du jour. On parlait aussi de cette nation qui est la Gambie. Eh oui, la sélection gambienne qui a eu quand même un petit souci. Hein. Concernant le voyage mouvementé de cette équipe gambienne lors de son trajet vers la Côte d'Ivoire afin d'y disputer cette fameuse Coupe d'Afrique des Nations. On le rappelle, les dates du 13 janvier au 11 février, jour de la finale. Voilà. À Abidjan. Oui, messieurs.
Bah, faut rappeler les faits.
Alors, les faits, on va les rappeler tranquillement.
Exactement, Bilal.
Ouais.
Cette équipe gambienne, justement, s'est qualifiée pour la CAN et a refusé une prime de 15 000 euros, il me semble.
Ouais, malheureusement, il y a toujours des primes. Hein.
Mais vous savez ce qu'ils ont négocié derrière?
Alors?
Ils ont négocié des passeports diplomatiques.
Ah, carrément.
Exactement. Ouais. Chose, et c'était là l'interrogation, qu'ils ont obtenu.
Ouais.
Ah ben, donc. Ouais. Ils ont ces fameux passeports diplomatiques, ils obtiennent, ils disent non à la prime.
Oui.
Ils font un stage, je crois, en Arabie Saoudite où, pareil, ils acceptent une prime où il a refusé de 5 000 dollars, je crois, c'était en dollars. Et là, entraînement justement avant l'arrivée justement en Côte d'Ivoire pour cette Coupe d'Afrique, malgré qu'ils ont obtenu ce fameux passeport diplomatique, ils redemandent une prime de 500 000 euros pour l'ensemble de l'effectif. Ça, si on fait le calcul, ça fait à peu près 15 000 euros chacun. Et ils ont pris comme ça justement la fédération d'otages, chose qu'ils ont obtenue. une fois justement cette prime obtenue, ouais, ils ont pris l'avion et effectivement,
voilà, l'avion a fait
8 minutes, des gens se sont évanouis. Manque d'oxygène,
en
etc.
En raison d'une perte de pression. Hein. Exactement. Voilà, c'est ça.
Voilà ce qui s'est passé.
Et, ouais, le sélectionneur qui a parlé derrière, qui disait que forcément sans oxygène, on meurt. Donc il disait que 30 minutes plus tard, tout le monde aurait été.
Oui, tout à fait.
Tout le monde aurait été.
Il y en a même qui sont évanouis. Hein. Il y en a qui étaient vraiment.
Voilà, voilà,
qui étaient,
c'est vrai que pour répondre à la question du sujet, une Coupe du Monde. Qui va bien se passer pour tout le monde. En tout cas, elle démarre mal pour cette sélection.
Pour le rapatriement justement des nations
de la Gambie,
en Côte d'Ivoire.
Mais pour revenir un petit peu plus sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Honnêtement, je ne sais pas qui peut gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire que là, sur toutes les équipes qu'il y a dans cette Coupe d'Afrique des Nations, il y a 8-10 équipes qui peuvent gagner. Mais il y a aussi, on en parlait avec Adnan juste tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a des grosses têtes de série qui peuvent passer à la trappe dès les poules. Voilà, et ça c'est mon gros pari, c'est-à-dire que je pense vraiment
des nations vont directement sortir,
au moins
en phase de groupe,
une grosse équipe qui va se faire surprendre, parce qu'aujourd'hui comme on a parlé par rapport à l'Euro, par rapport aux qualifications, par rapport à la Coupe du Monde, il y a plus de petites équipes. Donc maintenant, ces équipes-là, je te prends des exemples, la Tanzanie, la Zambie, la Namibie, justement, on ne sait pas dans quel état va arriver cette équipe-là, l'Angola, le Mozambique, ces équipes-là, ils savent de plus en plus jouer, ils jouent de mieux en mieux. Et il n'y a plus de limite. C'est-à-dire qu'on est là, on est en Côte d'Ivoire, on fait la Coupe d'Afrique des Nations, et en fait, leur but, c'est que même si ce sont des petites équipes, ils vont essayer d'aller chercher tous les matchs, un par un, et ils vont jouer leur. Et je pense qu'il y a vraiment une grosse équipe qui va chuter dès les phases de poule.
Ouais.
Encore une fois, il ne faut pas oublier, il y a un critère justement qui a changé, c'est les changements à 5. Le 5 changements justement valables sur le terrain. Je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup d'équipes justement qui se sont nivelées par le haut, et notamment, et on en a parlé très très souvent, les certains binationaux qui attendent plus maintenant 26 ans pour aller dans les pays d'origine de leurs parents, on les prend très très jeunes, voire même. Et là, on a vu le dernier championnat des U23 où le niveau il était assez haut parce qu'il y avait plein de binationaux qui avaient intégré justement les équipes.
Avec trois équipes africaines en quart de finale.
C'est exactement
ça. C'est quand même que le niveau augmente aussi.
Exactement. Ouais. Et donc, tout est en train de se structurer. Maintenant, comme tu l'as dit, effectivement, on va voir l'état des terrains. Et malheureusement, il y a un mal qui nous poursuit dans cette CAN.
Ouais.
C'est l'arbitrage.
L'arbitrage.
Est-ce que l'arbitrage va être à la hauteur justement de cette compétition? Et ça va être là l'enjeu.
Sur des
cas.
Euros et des Copa América, on a vu aussi des.
Même en Coupe du Monde aussi. On a fait débat.
Je suis d'accord. Mais les 85 minutes de match, on l'a jamais vu ça.
Ouais. Bon, après la montre, elle peut s'arrêter.
C'est vrai que c'était mon petit bémol.
Bien sûr, ton petit bémol. Vas-y.
L'état des terrains.
Voilà.
Ouais. Maintenant, le grand, l'unique Didier Drogba, dans un reportage, a montré tout ça.
L'ambassadeur de cette
CAN a promis un bon état. Moi, je fais confiance à Didier Drogba.
Bien sûr.
J'ai une totale confiance en lui. En fait, moi, c'était ce bémol-là parce que c'est vrai que les dernières Coupes d'Afrique des Nations. On parle justement du niveau du football africain qui évolue de plus en plus. Ce n'est pas possible à un tel niveau de jouer sur de telles pelouses.
Ouais.
Donc maintenant Didier Drogba promet des trucs. Didier Drogba, moi j'attends de voir le premier match samedi, la Côte d'Ivoire qui va jouer contre la Guinée-Bissau. J'attends de voir. Mais juste pour revenir sur ces grosses équipes, il y a tellement de grosses équipes.
Ouais.
La Côte d'Ivoire qui est pays hôte, le Nigeria, l'Égypte qui est toujours là. On a aussi le Cameroun
qui est pour moi le grand favori, l'Égypte. Moi personnellement,
tous les ans ils sont là. Rajoutes l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Mali qui est là. Il y a combien d'équipes le Cameroun, je ne sais pas si je l'ai déjà cité, le Ghana aussi qui a fait de très bons parcours. Il y a combien d'équipes qui peuvent gagner cette CAN avec de tels joueurs dans chaque équipe?
T'as pas tort.
C'est extraordinaire.
Il y a multiples favoris, effectivement, encore une fois, mais c'est une compétition qu'on connaît et on sait qu'il va y avoir beaucoup de surprises par rapport à ça. Donc, encore une fois. C'est une grosse compétition qui arrive avec pas mal de favoris, mais il n'y a pas un qui sort du lot.
Ouais. Pour moi, il n'y en a pas un qui sort du lot et après ça.
Pour Adnan.
Voilà, pour
HD, pour Vivien. Exactement. Cette Coupe d'Afrique, justement, la meilleure. Droit télé aussi compris.
Bah, pour moi, il y a tout pour. Alors, bon, si on met de côté cet accident dramatique qui a été évité de peu, en termes de qualité, même de joueurs, parce que par exemple, je prends un exemple, beaucoup de nos auditeurs vont connaître Mané, Salah, Haller, Ousmane, etc.
Ces joueurs-là, attention, ils ont quitté le championnat européen pour aller dans un championnat moindre et cette interrogation en tout cas que moi j'ai par rapport à ce joueur-là.
Exactement, et c'est pour ça que je me dis même que peut-être qu'un joueur phare, ça peut être par exemple Peter Chalhoub, qui est un ami bien qui évolue en Afrique, au Meldin en Afrique du Sud. Il y a beaucoup de joueurs sur le continent de profils un peu offensifs qui risquent d'émerger, et c'est pour ça que je pense même qu'on va être même très très surpris et c'est pour ça que je partage un petit peu ce qui a été dit, moi le premier tour je serais incapable aujourd'hui de faire un pronostic. Si on me donne groupe par groupe, qu'on me demande de faire 1, 2, 3, 4, je serais incapable de sortir les deux, plus les meilleurs troisièmes, etc.
Et n'a pas tort, Vivien. Mathieu, avant de retrouver HD.
Vivien disait que peut-être des petites pépites qui allaient éclore. Moi, j'ai surtout hâte de voir nos joueurs de Ligue 1. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de joueurs de Ligue 1 qui ont handicapé beaucoup de clubs d'ailleurs qui sont partis pour cette Coupe d'Afrique des Nations.
Lorient, je crois aussi.
Lorient qui est l'équipe la plus impactée.
Marseille
d'ailleurs.
Aussi.
Marseille est impactée, Reims aussi. Mais j'ai hâte de voir les joueurs de Ligue 1 aussi, comment peut-être il y en a qui des petites pépites qui vont émerger comme ça. Et je trouve ça intéressant.
Il y a aussi les joueurs de Leverkusen. Justement, je crois la paire de défenseurs, etc.
Boniface est blessé d'ailleurs pour le Nigeria. Ouais. C'est un gros coup dur pour le Nigeria. Mais en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, je vais surtout suivre Amin Harit et Azimhen.
Amin Harit, les Lions de l'Atlas dans cette sélection marocaine. On n'oublie pas, après, HD, c'est alors justement les Marocains et pas que.
Après, on va rappeler les difficultés pour lire une Coupe d'Afrique.
Ouais.
C'est que, par exemple, une équipe comme le Maroc,
alors,
qui a fait demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, ils ont battu leur meilleur match, ils les ont fait contre des équipes européennes. C'est-à-dire que...
Ouais.
Le contexte d'une Coupe du Monde ne permet pas d'avoir une bonne grille de lecture sur une Coupe d'Afrique.
Il en parlait.
Parce que c'est pas les mêmes équipes.
Ben
c'est pas les mêmes.
Ils ont tous les attentes.
Anna, je me rappelle, on a parlé.
Tout dans les dents, au tournant, en
le
disant.
Coach Tolé le disait aussi. Merci à HD de revenir sur ça. C'est vrai.
Donc voilà. Et le deuxième aspect, c'est que moi je trouve que la CAN, c'est une des compétitions continentales. Parce qu'on va rappeler, il y a la Coupe d'Asie qui va avoir lieu aussi en même temps.
Aussi.
Au Qatar. La CAN, c'est une compétition, moi je trouve, qui est dure. Dans le sens où c'est souvent les meilleures défenses, les défenses les plus solides. On a parlé de l'Égypte, le très bon parcours qu'ils ont fait à la dernière CAN, c'est notamment parce qu'ils ont été solides. Exactement. À chaque fois, ils emmenaient les équipes au tir au but et ils les battaient au tir au but. Donc, à un moment donné, c'est quelles équipes vont être capables de verrouiller, c'est-à-dire de fermer le jeu dans le bon sens du terme, c'est-à-dire à un moment donné pour gagner, arrêter de prendre des risques et jouer la gagne. Avec la défense. Je pense que par exemple une équipe comme l'Algérie, c'est une équipe qui va avoir beaucoup beaucoup de mal à faire ça. Que dans une CAN,
oui, parce que c'est pas dans leur ADN.
Donc la CAN, pour finir Bilal, c'est pas forcément une compétition où les équipes qui prennent des risques, qui font le jeu, sont celles qui gagnent à la fin.
C'est vrai.
On en avait parlé, merci HDR.
Oui et non. Allez, pourquoi Adnan?
Les deux derniers vainqueurs de la Coupe d'Afrique, le Sénégal et l'Algérie, malheureusement, c'était pas des équipes défensives et elles étaient plus offensives.
Le Sénégal, ils avaient quand même Gana Gueye en 10. Moi, je trouve que c'est un jeu très défensif, mettre quelqu'un comme Gueye.
Mais c'était presque quand même assez ouvert, on n'était pas sur le bus derrière.
Non,
voilà, ça jouait quand même. C'était pas dégueulasse à voir jouer.
Bah, justement, Youssi Sey, même depuis, je trouvais qu'il était assez critiqué sur ça. On lui reprochait parfois de ne pas prendre assez de risques avec la qualité qu'il avait dans son effectif. C'est un peu les critiques qu'il avait notamment au pays.
Il a su trouver l'équilibre, mais ce n'est pas non plus l'équipe José Mourinho.
Je suis d'accord, mais sauf que dans les deux cas, les coachs, justement, en cours de compétition, ont fait le choix d'avoir une approche plus prudente, plus défensive, qui leur a permis d'aller au bout. S'ils avaient maintenu leur valeur du début jusqu'à la fin de la compétition, ils seraient probablement tombés avant.
C'est surtout grâce à ça aussi que l'Égypte, tu parlais de l'Égypte, c'est grâce à ça que l'Égypte a gagné autant de CAN. C'est parce que ils sont tellement solides défensivement et que derrière, quand t'as des phénomènes comme un certain Mohamed Salah, tu fais ce que tu veux.
Ah, mais et ça après... devra quand même jouer un peu des tours sur la finale, alors même s'il perd au penalty. Enfin, le début de match, si Mané met le penalty, peut-être cette stratégie, elle aurait été très difficile.
C'est clair.
Je trouve que quand même, ça a pu avoir des limites dans leur dernière case, justement, dans le cas de l'Égypte.
Justement, où là, tu as raison de dire, ils étaient déjà très limités.
C'est-à-dire
que déjà qu'ils arrivent à ce parcours-là, en tout cas, voilà, c'était déjà un miracle pour moi.
Vous allez rester avec nous. Oui.
Et après, dernier paramètre, le fait d'être dans une compétition à 24 équipes, ça veut dire que potentiellement, il peut y avoir un déséquilibre entre les deux parties de tableau. Donc, il peut y avoir, c'est une compétition où on peut très bien se manquer au premier tour, finir troisième et faire une deuxième. Mais ça veut dire qu'il peut y avoir des parties de tableau où on peut retrouver 4, 5 favoris et une partie de tableau plus ouverte. Et en partie, le Sénégal, ce qui leur était arrivé il y a 2 ans. Donc, ça, il faut le prendre en compte aussi.
On a Karima qui nous écoute ce soir avec Saïd, sans oublier aussi Nassera. Et on a aussi l'oncle de Yacine. Voilà. Hamoud qui nous écoute. Voilà, qui nous passons le bonjour, le bonsoir. Parce que faut pas l'oublier, hein, c'est le nouvel l'an berbère. Hein eh oui, Anne, tu n'en as pas parlé, tu ne l'as même pas souhaité. C'est vrai, on l'a oublié, mais en tout cas, nous, on le souhaite hein, à toutes et à tous. C'est ça, de Beurre FM. Allez, une courte pause, la dernière, on va revenir avec cela, c'est promis, on va parler du parquet nord-américain, mais plutôt, non, là, ça sera du parquet français, hein, du côté, juste à côté de la radio, de Bercy, et on reviendra, c'est promis, sur la planète football. À de suite.
Time Foot spécial Cannes 2024 revient dans un instant. Beurre FM, 20h, 21h, Time Foot spécial Cannes 2024 avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM pour cette dernière partie de l'émission qui est Time Sport, 20h, 21h. Il est 20h35 avant d'accueillir Vanessa. Et oui, Vanessa qui arrivera 21h, 23h avec Solal à la réalisation. On le rappelle, autour de la table pour m'accompagner, c'est Vivien, c'est Annan, c'est HD, sans oublier Mathieu aussi. On a parlé de football africain, on a parlé aussi du football européen avec Antoine Griezmann. On va s'attarder aussi sur la NBA qui est du côté du Paris au Accor Hotel Arena, c'est ça. Et aussi, bon, on va terminer encore, allez, sur ce dernier dossier concernant ce football français.
Time Sport, le mode pressing.
Anan, il y a beaucoup de personnes hier qui auraient voulu, mais justement, on va en profiter, on va faire plaisir à Léa, à HD et à toi, qui auraient voulu revenir sur le cas du projet Mbappé. Oui. Et oui, Mathieu, hier, tu as eu la chance avec Vivien d'en parler. Non, mais vraiment, j'ai reçu beaucoup de messages en me disant, mais Bilal, c'est pas bien. Tu le fais à chaque fois que je ne suis pas là sur l'antenne ou j'aurais voulu aussi vous appeler.
Exactement.
Justement, on a beaucoup trop d'incompréhension. Que ça soit avec les parents, que ça soit avec les plus jeunes, les moins jeunes, aussi les agents, les pseudo-agents.
Hein, c'est exactement
hein, et aujourd'hui, on sait plus comment faire. Justement, on a eu un remaniement, là aussi, peut-être faire un remaniement et du football français encore une fois. C'est vrai, Vivien, ça te fait sourire, mais c'est vrai.
Oui, bien sûr. Bah, j'attends ça.
Mais ma réaction, moi, je connais ce projet-là. Pourquoi ? Parce que j'étais au bord des terrains pendant X temps et j'ai été président et j'ai vu, moi, les réactions des parents et voir comment ils réagissaient. Il faut savoir que, effectivement, le métier d'agent, bah, il s'est développé de plus en plus et beaucoup plus de personnes ont accès, voire même des personnes qui n'ont pas le diplôme et qui font signer des droits d'image. Et en fait, c'est comme ça qu'ils rentrent en contact avec les jeunes. Ils n'ont pas le diplôme d'agent, donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils font signer des contrats d'image. Des contrats d'image qui permettent justement dire aux parents, voilà, moi je vais m'occuper de votre jeune, etc. Malgré que je ne suis pas agent, mais je vais m'occuper de ça, etc. Et une fois qu'il aura son premier contrat, derrière, je vais toucher une commission. Et c'est comme ça qu'ils arrivent. Et c'est pour ça que maintenant, ces agents-là, on les retrouve dans les clubs, on va dire, moins huppés que les clubs d'élite qu'on voyait auparavant. Avant, on les voyait justement dans tout ce qui était championnats nationaux, etc., etc. Maintenant, on les voit dans les championnats de ligue, dans les championnats de district, qu'ils essayent de repérer, etc. Et ils arrivent à approcher justement ces jeunes-là par ce biais-là. Encore une fois, le mythe des enfants de 13 ans qui touchent 2300 ou je ne sais plus combien qui a été évoqué hier, malheureusement, ça n'existe pas. Comme il l'a dit Juan Rosé, il y a encore une loi justement qui protège ce type justement de dérive. Mais oui, on a maintenant ces agents-là. Ils ont plusieurs portes de sortie. Il y a la France. Effectivement, ils vont essayer de passer les jeunes en France. Mais quand ils n'y arrivent pas, ben, ils vont aller en Italie. Ils vont aller en Croatie. Ils vont aller dans des petits pays comme ça où ils arrivent à placer leurs jeunes. Et c'est comme ça, justement, ce fameux projet, comme on dit, on pense tous qu'ils vont finir à Mbappé. Mais rien que le fait de prendre un jeune et de le mettre dans un club étranger, pour eux, ils pensent que c'est le jackpot. Et c'est pour ça qu'il y a cette pression. Justement, on voit tous les bords, tous les parents au bord du terrain en train de crier, en train de limite de prendre la place du coach. Le coach donne des consignes dans le vestiaire. Tu joues comme ça, comme ça, comme ça. On a le père de famille qui va donner des consignes qui est tout autre, en pensant que c'est lui qui va coacher son fils. Mais non, c'est pas comme ça. Il y a même une dérive qui se fait de plus en plus aujourd'hui, à l'heure actuelle, et que moi, je vois dans les terrains, et je les vois quand les clubs sont fermés. C'est-à-dire qu'on voit maintenant des coachs, des entraîneurs qui font coach sportif individuel, qui vont prendre les enfants en dehors, justement, des clubs. C'est-à-dire que pendant les vacances, là, le petit a besoin de respirer parce qu'il y a les muscles, il y a tout ce rapport-là. Eh ben, ils vont prendre les enfants, ils vont faire payer ça aux parents en faisant des entraînements supplémentaires, en vendant le truc. Voilà, avec ces entraînements-là, il va avoir des bases pour pouvoir intégrer le centre de formation et ceci, cela. Et malheureusement, voilà, on est dans cette dérive-là. Et c'est ça qui était dénoncé effectivement hier.
Et c'est pour ça qu'hier, je disais que c'était aussi un peu de la faute des parents.
Ouais,
parce que,
les parents, toi.
À 10-13 ans, les jeunes, ok, ils peuvent commencer à rêver, à devenir professionnels quand ils voient tous les jeunes à la télé, comment ils se développent. Mais est-ce que ce serait pas plus le rêve des parents que des enfants?
Oui, mais il y a une stat qui est très parlante. On a 2 millions de footballeurs en France. C'est ça, c'est le nombre de licenciés, 2 millions.
Donc tu as 2 millions de personnes qui rêvent de faire le projet Mbappé.
Je suis d'accord.
Tu crois
mais tu crois que professionnel.
Mais d'accord, mais tu crois que
non, je sais que c'est
0,005 de chance. D'accord, mais t'as plus de chances de gagner au loto que de devenir professionnel.
Mais ça fait longtemps que je suis plus là, si j'avais eu la chance de gagner au loto,
Adnan. Mais non, ouais.
Non, mais blague à part.
Allez, vas-y.
Moi aussi, j'ai rêvé de devenir footballeur professionnel ou de devenir professionnel dans un domaine. Mais les parents, des fois, t'as l'impression que ce sont les parents. C'est le rêve des parents, c'est pas le rêve des enfants. Et à travers ça, les parents, comme tu dis, qui crient au bord du terrain alors que le coach a donné des consignes et que le père dit complètement l'inverse. Et t'as l'impression qu'en fait, le père, il perd complètement la notion du truc. Et alors que son fils, il est en benjamin ou en cadet et il joue à un bon niveau, certes. Mais à un moment donné, il faut aussi réussir à raisonner les parents et à dire, bon, à un moment donné, c'est votre fils qui joue et votre fils, il a la tête sur les épaules, il a pas le boulard. Bien et sûr. C'est vous qui êtes en train de faire ce qu'il va devenir.
Mais il y a aussi, attention, il y a une mentalité qui s'est installée au sein des clubs.
Mais parce que je disais hier, voilà, ça a changé cette mentalité parce que la société a changé.
Je vais t'expliquer un truc, c'est que quand tu mets une équipe 1 où tu prends les meilleurs joueurs, l'équipe 2, l'équipe 3, est-ce que tu crois que ça met pas de la pression justement, non seulement aux parents, aux enfants, etc., de dire en fait, t'as des élites, t'as une équipe élitiste, t'as une autre équipe, etc. Et forcément, ça met la pression parce que on veut tous être dans la première équipe. Ouais. Et ça, c'est naturel.
Mais ça a toujours fonctionné comme ça. Alors, et dans tous les sports. Adnan, dans tous les sports. C'est-à-dire que tu fais du basket, tu fais du baseball, dans tous les sports. T'as une équipe une et tu mets les meilleurs, c'est normal, c'est ton équipe une.
Après, Mathieu, il y a quand même un facteur et j'aimerais bien ce que a dit Adnan, le loto. Plus de chances de gagner, oui, je sais pas. Ouais. Sache que Adnan, moi j'en connais des dizaines et des dizaines de gens qui ont failli devenir pro à tel point c'est facile, mais il y a juste un facteur, c'est
les
que toutes ces personnes-là.
Les ligaments croisés, c'est vrai qu'on en parle pas assez. Et ça, malheureusement, on met pas assez la lumière dessus. On a certes des gens qui réussissent, mais le nombre de personnes qui finissent en national 2, 3, parce que j'appelais ça la DH, la DSR, etc. Les régionales, etc. Combien ont fait des centres de formation? Combien on leur a promis des avenirs vertinus? Voilà. Et malheureusement, ils se retrouvent à gagner des coupinettes, à se retrouver gardien dans tel gymnase de la ville, etc. etc. Ouais. Et malheureusement, on n'en parle pas assez.
Mais je suis d'accord, et je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, pour revenir à ce que Solal disait, Mathieu. Moi, c'est le genou gauche, le ligament croisé.
Genou gauche pour Mathieu. HD réaction sur football amateur et aussi vendeur de rêve.
Moi, j'ai pas la même comment dire ça. Je précision que
ce que vient de dire
Adnan.
Mathieu.
Moi, j'ai toujours cette idée en tête qui est quand je regarde aux États-Unis, même si c'est un système qui a plein d'effets pervers, mais c'est que est-ce que le sport c'est un tremplin?
C'est un élévateur social.
Voilà, c'est un élévateur social. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que le sport, par exemple, te permet d'avoir accès à des études auxquelles tu n'aurais pas eu accès si tu n'avais pas fait de sport? est-ce que ça te permet d'avoir accès à des milieux auxquels tu n'aurais pas eu accès si tu n'avais pas fait de sport? C'est-à-dire, est-ce que le sport permet à des jeunes qui, à un moment donné, de par l'origine sociale de leurs parents, de par des difficultés qu'ils peuvent avoir dans leur apprentissage à l'école, etc., le sport, c'est une autre porte d'entrée. Voilà. Et je pense qu'on a perdu de vue ça, c'est-à-dire que le professionnalisme et l'argent qu'il y a dans le foot a pris une telle ampleur que ce côté tremplin, c'est-à-dire à un moment donné, le foot te sert à avancer dans la vie plutôt que le foot devient une obsession. Je pense qu'on a perdu ça. Et après, c'est la question, c'est dans le milieu du football, que ce soit les clubs, les instances, les différents acteurs, comment on fait en sorte de faire revenir cette idée-là, c'est-à-dire que le football aide les jeunes à avancer dans la vie plutôt que d'être une obsession, c'est-à-dire le foot ou rien. Et je pense que c'est philosophiquement, on est très loin de ça, et ce serait peut-être vers cette direction-là qu'il faudrait revenir.
Ouais. Pas faux.
Après, on avait vu Zidane
avant de partir avec l'NBA,
qui a fait un reportage il y a pas très longtemps, une interview en tout cas, qui disait que lui aussi, à un moment dans sa vie, il savait que l'école c'était mort pour lui, et pour lui c'était le foot ou rien.
Que le football.
Voilà, exactement. Mais il l'a fait de manière très intelligente. Il a été cadré justement par ses frères. Et c'est vrai que
c'est ça. Il a été entouré.
Oui. Mais c'est aujourd'hui ce qui entoure justement les jeunes. Ou en tout cas les futurs footballeurs, malheureusement, il y a un but aussi financier.
Et oui, alors justement là, pour terminer cette émission, on va parler de Bercy en ce moment. Hein, c'est le Paris Game 2024, c'est ça, le NBA, où on voit justement les Brooklyn face à Cleveland. Et c'est Cleveland qui mène au score, Vivien. On revient en France avec le championnat nord-américain qui est la NBA en basketball.
Exactement. Bah, pour alors ça a commencé donc en 2020, et une fois de plus, la NBA qui maintient sa confiance à la France pour un match de gala. Donc là, c'est Brooklyn qui est en train de recevoir, même si le match est à Paris, les Cleveland Cavaliers. On a deux équipes.
C'est Cleveland qui reçoit ce soir, Vivien.
C'est l'inverse.
C'est Cleveland,
J'avais un doute. Oui, j'ai joué effectivement avec le maillot. Pour l'instant, alors Cleveland mène tranquillement. Moi, comme j'avais un petit peu prévu. Donc Cleveland qui est à peu près au milieu de la conférence Est, à la 6e place, contre Brooklyn qui est 10e. Alors sans Ben Simmons et quelques joueurs, mais qui s'en sort pas si mal, je trouve, malgré les absents, qui fait une saison plutôt correcte. Donc c'est un match quand même intéressant. Alors pour le grand public, alors même si certains vont pas forcément connaître par Donovan Mitchell, mais il y a des deux côtés, il y a vraiment beaucoup de talent, attention, et c'est pour ça que Bercy est plein. Il faut pas se tromper, c'est quand même
on a même Mbappé, je crois, il y a Beckham aussi.
Exactement, c'est un très bon match. Donc voilà, collectivement, les Cavs, pour moi, ils confirment un peu ce qu'ils vont être, ce qu'ils ont été l'an dernier, c'est-à-dire une équipe qui est capable d'aller au deuxième tour et peut-être de jouer les troubles faits en play-off.
Mais
pour
tu
moi.
Vois, voilà, moi je vais un peu plus loin que ça, parce que la grande star de ce soir, c'est Donovan Mitchell, comme vient de le dire Vivien. Et ils ont deux superstars qui sont blessés en ce moment. Darius Garland, leur meneur, et leur ailier fort aussi, Evan Mobley. Donc je pense qu'avec avec des joueurs qui vont sortir du banc comme je vais y arriver, comme Caris LeVert, comme on a aussi un Jarrett Allen en pivot qui est très très bon en ce moment. Je pense, je vais aller au-delà de ce que dit Vivien, je pense qu'ils vont pouvoir devenir contender pour le titre NBA.
Carrément.
Oui, parce que
à l'Est,
parce
que le problème, c'est qu'au deuxième tour, il faut passer Boston, Milwaukee et Philadelphie
après
aussi.
Après, en ce moment, Milwaukee, ça fonctionne pas très très bien. Ils ont beaucoup de difficultés, surtout défensivement. Maintenant, ça va continuer de gagner des matchs. Giannis Antetokounmpo va continuer à être énorme. Il y a le retour de Middleton qui revient pas mal, mais Philadelphie, ils sont sur une très mauvaise série. Ils sont sur 4 défaites de suite, si je dis pas de bêtises. Je trouve que Boston, ça reste la meilleure équipe de la ligue cette année en ce moment, en tout cas. Et puis il y a les Knicks de New York qui jouent vraiment bien depuis qu'ils ont fait leur échange avec Toronto. Ils ont récupéré un très bon défenseur et ils sont sur 5 victoires consécutives. Maintenant, sur ce que tu disais par rapport à Wemby,
retour en France, du moins à Paris.
Adam Silver, le commissionnaire de la ligue, était chez nos confrères de Bein tout à l'heure en interview.
C'est ça.
Et voilà, il disait que rien n'avait été signé et que voilà, mais apparemment, on se dirige vers un Paris Game 2025 avec un certain Victor Wembanyama.
Ouais.
Et Victor Wembanyama, je sais pas si t'as vu Bilal, mais cette nuit, il a fait un truc assez dingue.
Tout le monde qui l'a vu.
Il a réalisé d'ailleurs son premier triple-double en carrière.
Ouais.
Mais c'est devenu le cinquième plus jeune joueur de toute l'histoire à réaliser un triple-double.
Ouais,
et c'est devenu le deuxième joueur, de toute façon le deuxième et le... Ils sont que deux, ouais. Donc Russell Westbrook et lui, a réalisé un triple-double en moins de 22 minutes. C'est-à-dire que Victor Wembanyama, cette nuit, a joué 21 minutes. Il a réalisé un triple-double et il était à 45 secondes du record de Russell Westbrook.
Ouais, la seule nuance, c'est que je trouve vraiment qu'il a affronté personne. Enfin, par rapport aux qualités que des 3A, je pense à Marvin Bagley ou James Wiseman, qui ont totalement disparu.
Tu peux pas remettre en cause ce triple double et cette performance, parce que tu vois, j'en parlais ce matin avec Benji. J'ai un petit problème. Alors après, je suis pas le coach de légende qui est Greg Popovich. Pour qui j'ai énormément de respect, évidemment, mais j'ai du mal à comprendre
la restriction de minutes,
merci, mais j'ai un peu de mal parce que voilà, il a moins de 30 minutes en moyenne cette saison. Cette nuit, il a joué que 21 minutes. Je me dis, si tu le mets 35 minutes, il fait un 40-20-15.
Ils sont derniers
de cette conférence Ouest, mais voilà, Wemby est un peu seul dans ce marasme.
Alors, Solal, qu'aimerait réagir justement avec HD, on les a pas entendus.
Ouais, j'avais une question pour Vin et Mathieu. En fait, Westbrook est devant lui par rapport à cette stat. Est-ce que, ce serait intéressant de savoir, moi je ne sais pas personnellement, est-ce que Westbrook était dans des meilleures conditions dans son équipe, non seulement par le niveau de jeu, ou est-ce que son équipe était plus intéressée à son jeu au moment des fêtes que Wemby qui vient d'arriver
Mais il était à OKC, donc c'est une bien meilleure équipe déjà, donc c'est vrai que ça donne du crédit. Moi en fait j'essaie pas de diminuer, parce que Wemby pour moi fait une saison exceptionnelle dans les conditions des Spurs. C'est que vraiment je trouvais que voilà, l'équipe qu'il a affronté, que son match contre Milwaukee, pour moi était plus impressionnant. C'est dans ce sens là
parce que c'est face à Giannis Antetokounmpo,
exactement, je crois que ce match là il était plus,
parce que voilà, mais il faut aussi souligner que c'est un rookie et
il fait une très belle saison
et il est meilleur contreur de la ligue avec 3 contres par match en moyenne.
HD, on écoute. Dernier mot concernant cette NBA. Alors,
déjà pour revenir au match de ce soir, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est pas le meilleur match de l'année en NBA, mais que c'est quelque part, c'est normal que les meilleurs matchs de NBA se jouent aux États-Unis. On n'aimerait pas qu'un Paris OM se joue à Shanghai ou à New York. Donc évidemment, c'est pas le meilleur match, mais pour des jeunes, pour des amateurs qui ont envie de découvrir la NBA, c'est une vitrine. Le meilleur match de la soirée, on en parlait hors antenne, il va y avoir un Boston Milwaukee qui va être très intéressant à suivre cette nuit. Et là, on a beaucoup parlé des équipes de l'Est, mais la dynamique à l'heure actuelle, elle est à Boston et elle est à l'Ouest. Il y a une super équipe qui a été formée ces dernières semaines, c'est les Los Angeles Clippers. On a tous envie de voir ce que cette équipe va donner cette saison. Il y a Westbrook, il y a Harden, il y a Kawhi Leonard, il y a Paul George.
Ils ont l'air d'être en bonne santé
une équipe qui est forte un peu dans tous les domaines, c'est-à-dire à l'intérieur et à l'extérieur, parce que le shoot à 3 points a pris une importance considérable ces dernières années en NBA. Donc voilà, donc il se passe aussi des choses des choses à l'Ouest, puisque c'est Denver qui est le tenant du titre. Et il y a beaucoup d'équipes solides à l'Ouest.
On va le retenir.
Donc je pense que là ce soir c'est une vitrine. Après,
la vitrine peut être meilleure. Moi, je pense que tu peux très bien avoir même un Los Angeles-Boston, par exemple, chaque année. Les deux équipes les plus titrées de l'histoire de la NBA, ce serait plus vendeur, je trouve. Même si peut-être qu'il n'y aurait pas match aussi, vu l'état des Lakers en ce moment.
Tu me ramènes le King à Paris,
je comprends pas son argument de dire qu'il ne faut pas amener les meilleures équipes.
En parlant du King, les meilleurs matchs se jouent aux États-Unis. C'est-à-dire que pour moi, le Boston-Milwaukee, c'est mieux qu'il se joue à Boston.
Je suis d'accord avec toi, mais avec ce que la NBA veut faire et s'exporter un petit peu, et surtout là, il revient de plus en plus chaque année, c'est que je me dis voilà, là t'as une vitrine qui est pas la meilleure certes, mais du coup peut-être qu'au fur et à mesure, avec les résultats du match etc, et surtout aussi marketing, on sait comment ça fonctionne, ils vont se dire voilà, ça fonctionne bien, on arrive bien à vendre ceci cela, on arrive à ramener des gens, et peut-être dans le futur voir des plus grosses affiches.
Tu parlais du King, on termine. Mathieu, forcément, moi je tire mon grand chapeau à LeBron James qui a réussi quand même à 39 ans à mettre un poster devant PG-13 et James Harden. Franchement, c'est des trucs qui sont vraiment incroyables. Quand on regarde ses stats, ça fait que d'augmenter au fur et à mesure des saisons depuis que ça fait 20 ans qu'il est dans la ligue, presque 21 ans avec l'année 2024. Grosse force à lui.
Un grand merci à toi, Nan.
Moi, je voulais juste revenir sur une dernière chose.
Rapidement,
c'est la fin de l'émission. Il y a eu un match amical avec le Maroc et contre la Sierra Leone et le Maroc a gagné 3-1 avec deux buts de Ennasri et Boufal.
Bravo aux Marocains, les Lions de l'Atlas.
Donc ils sont favoris ou quoi?
Comment?
Ils sont favoris ou quoi?
Pas encore.
Pas encore. Selon Soufiane, ils sont favoris. Merci à toi, Vivien. Merci à Mathieu d'avoir été avec nous et aussi à HD pour son retour à la réalisation avec Solal. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. Restez à l'écoute justement. Il y a Vanessa qui arrive. 21h, 23h. Bye bye.
Retrouvez Time Foot spécial Cannes 2024 tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.